Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Joséphine Reynards, Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Bertie Bourdon et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. Parce que ce lundi est la journée du poisson. 4 épisodes sur les tensions économiques, sociales, politiques provoquées par la demande mondiale en produits de la mer qui ne cesse d'augmenter. Nous parlerons demain du saumon d'élevage. Mercredi, des merlus, harengs, cabillauds, les poissons de la discorde dans les eaux britanniques. Jeudi, du calamar traqué par les bateaux usines. Aujourd'hui, le thon rouge de la Méditerranée à l'Atlantique. Après des années d'efforts, il refait surface.
C'est sûr que c'est le poisson roi de la Méditerranée, parce que bon, c'est le plus prisé, c'est le plus recherché, c'est tout le monde en demande. Voilà, c'est qui en fin de compte sa misère, je vais dire, au thon, parce que tout le monde le pourchasse et donc le surexploite.
Moi, je peux pêcher 11 tonnes 7 en quasiment un an, du 1er mars jusqu'au 31 décembre. Cette limitation, elle a été faite quand les scientifiques ont décrété que le stock de thon était en danger.
Voilà, quand on achète le thon, donc les thons rouges de Méditerranée sont toujours vendus entiers. Et on a donc cette bague qui nous dit comme quoi c'est bien un thon qui rentre dans les quotas de la pêche française et des quotas donc autorisés pour la pêche du thon rouge.
Mais on en retrouve de plus en plus sur les quotas en fait. Hein. Donc c'est assez réconfortant. Et puis c'est de la pêche durable.
Il prend toujours cet air de surprise mêlé d'épouvante, des yeux perplexes, quelque chose dans le profil de mou et de caoutchouteux, la bouche toujours ouverte comme le rictus d'une boîte aux lettres et une peau grise façon aluminium, bardée de minuscules pinules qui lui donnent un air de stégosaure à la petite semaine. Non, la beauté n'est pas ce qui caractérise en premier le thon rouge et les associations de défense de la nature ont dû user de stratagèmes pour nous le faire aimer. Quand vous voyez un thon, pensez à un panda, suggère par exemple l'ONG Sea Shepherd, car le thon a longtemps été menacé de disparition, notamment quand la mode des sushis s'est étendue bien au-delà du Japon dans les années 90, et comme toute espèce, son extinction signifierait effondrement de toute une chaîne alimentaire. Après des années d'efforts, de mise en place de quotas et de contrôle des navires de pêche, le thon rouge ne fait plus partie depuis 2 ans des espèces en danger. Sur la liste rouge de l'Union internationale pour la protection de la nature, les stocks se reconstituaient, au point que les volumes de pêche autorisés ont été réaugmentés. Alors à quoi doit-on le retour du thon rouge en Méditerranée et dans l'Atlantique? Comment expliquer que sur ce sujet, les États aient réussi à coopérer? Et pourquoi le thon est-il aussi rentable et cher? Confère l'animal qui s'est vendu 800 000 dollars aux enchères de Tokyo il y a encore quelques semaines. Bonjour Sophie Gambardella.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargée de recherche CNRS en droit, rattachée à l'unité mixte de recherche droit international comparé et européen d'Aix-Marseille Université. Nous sommes également avec Mathieu Colter. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes ingénieur de recherche en halieutique à l'Agro-Toulouse, chercheur associé à l'IDRI, qui est l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Et vous êtes en duplex depuis France Bleu Occitanie à Toulouse. Merci à tous les deux d'être avec nous en ce jour férié. On va commencer, je trouve toujours intéressant de faire une sorte de cartographie quand on parle de sujet pour se le représenter, se créer des images. Sophie Gambardella, quand l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui ne considère plus le thon rouge comme en danger, mais comme une préoccupation mineure, donne ses conclusions. Est-ce qu'elle précise si la reconstitution des bancs est générale ou s'il y a des disparités locales, si certains fonds marins de Méditerranée ou de l'Atlantique sont moins prolifiques en thon que d'autres aujourd'hui?
Alors, le premier point que relève l'Union internationale de conservation de la nature, c'est que d'abord, il y a trois espèces de thon rouge. On parle beaucoup du thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée, mais il y a aussi un thon rouge du Sud et un thon rouge du Pacifique. Et l'état des stocks n'est pas le même pour les trois, en fait. Hein. Donc le thon rouge de l'Atlantique, effectivement, est passé de la catégorie en danger à celle de préoccupation mineure. Mais le thon rouge du Sud est passé de « en danger critique » à celle de « en danger », et alors que le thon rouge du Pacifique est passé de « vulnérable » à « quasi menacé ». Alors donc on a pas une amélioration pour les trois stocks.
Pour les trois stocks, et d'ailleurs on parlera spécifiquement du thon du Pacifique, du thon tropical tout à l'heure en fin d'émission pour notre rubrique Focus, comme on l'appelle. Mathieu Colter, sur les disparités, est-ce que néanmoins, si on regarde simplement la Méditerranée et l'Atlantique, on a à l'intérieur de cette espèce-là, enfin chez cette espèce-là de thon rouge, des disparités qu'on peut noter?
En fait, on a une aire de répartition, c'est vrai, qui est assez large, hein, sur l'Atlantique, la Méditerranée, et lors de l'évolution du stock, bah, cette répartition, elle a aussi évolué. C'est vrai qu'on avait oublié aujourd'hui la Norvège, un quota de thon rouge, donc on a du thon rouge jusqu'en mer du Nord, des choses qu'on avait peut-être oubliées avec la surpêche, avec la contraction du stock, et aujourd'hui, on voit en effet un thon rouge qui est présent sur les côtes atlantiques jusqu'en mer du Nord, et non plus seulement un peu plus restreint, on va dire, sur Méditerranée, et puis le golfe de Gascogne. Donc voilà, c'est des aires de répartition avec la biomasse qui augmente, la quantité de poissons qui augmente. On a aussi une aire de répartition. On retrouve des aires de répartition assez importantes.
On retrouve du thon en Norvège. On a trouvé en janvier un thon rouge d'un mètre échoué sur une plage de Seine-Maritime à Quiberville, alors que le thon rouge avait disparu de la Manche et de la mer du Nord au début des années 60. Alors on dit qu'il y a aussi des facteurs climatiques, les températures de surface dans l'Atlantique qui varient selon des cycles de quelques décennies. Et le thon rouge va et vient selon qu'on est dans une phase chaude ou froide, mais comme vous travaillez plutôt l'un et l'autre, Sophie Gambardella et Mathieu Colter, sur les pratiques de pêche et sur les politiques qui régulent ces pratiques, ce sont ces facteurs-là qu'on va détailler. Pourquoi, Sophie Gambardella, il faut rappeler pourquoi l'état de conservation du thon rouge était à ce point une catastrophe dans les années 90-2000, jusqu'à ce qu'on décide de le réguler?
Alors, on a créé en 1966 une organisation régionale de gestion de la pêche qui est concernée, donc qui gérait le thon rouge d'Atlantique et de Méditerranée, qui s'appelle la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et des mers adjacentes, qu'on appelle l'ICAT. Or, cette organisation, elle a pendant longtemps fixé des mesures techniques, en fait, hein, des mesures pour réduire les périodes d'ouverture de la pêche, pour interdire certaines pratiques, notamment le repérage des bancs par des aéronefs, etc. Il se trouve que ça n'a pas suffi et que dans les années 90, la Commission commence à penser à fixer des quotas. Et donc ces quotas vont être mis en place petit à petit. 98, les premiers quotas. Les États en fait vont pas du tout
les respecter,
suivre les recommandations des scientifiques.
Parce que sur la particularité du thon d'abord, on est là dans les années 90 quand on commence vraiment à réfléchir à des quotas. Mais pourquoi? C'est-à-dire que outre l'appétit soudain et mondial pour les sushis à cette époque, Mathieu Colter, quelles sont les particularités de cette espèce-là, le thon rouge, par rapport à d'autres, qui expliquent qu'il ait failli disparaître des océans? Il y a aussi des raisons liées à la nature de ce poisson.
Bah c'est vrai qu'on est sur un poisson, un grand pélagique, hein, donc qui s'agglomère aussi, où on a des agglomérations importantes. Donc on a une technique de pêche, notamment aussi des techniques, le développement de techniques de pêche comme la palangue, la pêche à la senne tournante, qui ont permis en fait de capturer des grandes quantités.
Il faut nous expliquer à chaque fois, hein, parce que ces techniques, elles sont impressionnantes. Je vous en prie.
Donc c'est des longues lignes où on a des hameçons posés dessus, et puis la senne, c'est on entoure en fait un banc de thon avec un grand filet qu'on va fermer par le bas, et puis on va entre guillemets, après transférer tous ces poissons dans des cages pour le garder vivant et ensuite l'engraisser. Donc voilà, ça c'est des grandes techniques de pêche qui ont été développées, et c'est vrai qu'on a aussi augmenté l'efficacité, la quantité de capture. Et puis on est sur un poisson, comme le disait très bien votre premier magnéto, hein, le roi des mers, donc c'est aussi une espèce qui est très valorisée, qui a été, comme vous l'avez dit, à travers les sushis aussi notamment, hein, internationalisée. Donc voilà, on est sur une espèce à forte valeur ajoutée, qui se vend très bien avec un marché international, et donc un appétit assez fort pour cette espèce.
Avec une espèce qui a aussi, c'est sa particularité, un âge de maturité sexuelle tardive, donc il y a toujours des risques qu'on tue les jeunes poissons qui ne se sont pas encore reproduits. Il a aussi d'autres caractéristiques, une durée de vie de 40 ans, et c'est un grand migrateur. Il peut parcourir jusqu'à 10 000 km en une année, parce qu'il peut respirer que quand il nage, ce poisson, d'où la nécessité, Mathieu Colter, de coordonner la gestion du thon à l'échelle mondiale. Il n'y avait pas d'autre choix.
Oui, tout à fait. Et c'est ce que rappelait Madame Gambardella en entrée, c'est qu'on a eu ce développement d'outils internationaux à travers la loi de la mer, à travers un accord dans les années 80-95 sur ces stocks de poissons qui sont migrants, chevauchants, donc on va retrouver dans des eaux nationales, en haute mer, ce qui complexifie en effet à la base la gestion. Hein. Quand on a un stock de poissons qui est que dans une eau nationale, donc un pays est responsable de gérer durablement. Ici, on a un ensemble de pays et puis des pratiques de pêche qu'on doit gérer aussi dans des eaux internationales.
On a longtemps cru que le poisson était un stock renouvelable à l'infini en mode multiplication des poissons dans l'évangile de Luc. Alors je l'utilise comme une référence culturelle, hein, non religieuse, et de toute façon ça n'a rien à voir avec Pâques. Il y a eu des contre-exemples graves dès les années 80 avec l'effondrement de la morue de Terre-Neuve, d'où la création d'organisations de gestion de la pêche. Et donc vous le disiez, Sophie Gambardella, pour le thon rouge de Méditerranée et de l'Atlantique, c'est la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ou ICAT, qui travaille à réguler la pêche, notamment en faisant des contrôles.
Qu'est-ce qui se passe? On va se faire contrôler par la marine irlandaise. Et bon, là, ils vont nous contrôler alors qu'on n'a même pas mis en pêche. On verra bien. Ça risque d'être rapide.
Voilà. Ils vérifient tous les papiers du bateau, la licence des pêches, la quantité de poissons déclarée, la quantité réelle de poissons dans la glacière. Il faut vraiment être carré avec tout ce qui est papier et tout, sinon c'est dérouté. Ils ramènent le bateau à terre et c'est une semaine, c'est une semaine dans un port étranger, quoi. C'est assez dur. Il faut vraiment être dans les clous. Hein. Donc en général, tout le monde est bien.
Des pêcheurs de thon en Bretagne contrôlés par la marine irlandaise à port du Thomas Nicolas II, c'était en 2017, l'extrait d'un reportage de France 3. Avant de parler des quotas, Sophie Gambardella, qui aujourd'hui contrôle et comment le chargement des bateaux de pêche, le nombre de thons attrapés, comment ça se passe ces contrôles-là?
Alors, ça va dépendre où se situe le navire, puisqu'on a un zonage international, on a cadastré un peu les océans, hein, comme on peut faire sur Terre. Donc on a des zones où c'est les états côtiers qui contrôlent. Dans les ports, c'est donc l'état du port. Et puis on a tout le problème, j'ai envie de dire, de la haute mer, où là, les contrôles sont beaucoup plus compliqués en raison de l'étendue, mais aussi parce qu'on manque de moyens. Au niveau de l'ICAT, ont été créés des inspecteurs, en fait, hein, pour aller en mer, des inspecteurs régionaux. Mais on voit qu'on a du mal d'abord à recruter et ensuite à déployer ces inspecteurs, même si ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années.
Mathieu Colter, j'imagine que travaillant auprès des professionnels de la pêche pour vos recherches, pour vos travaux, vous aviez déjà assisté à ce genre de contrôle. Est-ce que les pêcheurs y sont de toute façon rompus à cet exercice-là? Est-ce qu'ils les craignent? Comment ça se passe en général?
Ouais, ils sont de plus en plus rompus. C'est vrai qu'on a eu une augmentation des contrôles, une intensification. On est aujourd'hui sur une pêche très contrôlée, hein, avec typiquement, j'étais hier au festival Escale à 7, donc qui met justement aussi en avant en partie cette pêche. Et il y avait un film Pêcheur 2.0 réalisé sur un thonier senneur et qui montre bien cette phase du contrôle, notamment où lorsqu'on transfère tous les thons en fait de la Seine jusqu'à cette cage, il y a une caméra sous l'eau. Et le pêcheur et l'observateur de l'ICAT comptent au même moment les thons et doivent à la fin trouver le même résultat. Donc ça, c'est des opérations qui sont sur chaque coup de pêche. Donc voilà, c'est en effet des contrôles aujourd'hui assez sérieux et impressionnants.
Contrôle pour vérifier que tous ces bateaux, toutes ces pêcheries, comme on dit, respectent bien les quotas qui ont été mis en place et définis auparavant. Alors, pour rappeler, vous commenciez, Sophie Gambardella, à expliquer comment se sont mis en place ces quotas, le rôle précis qu'a joué la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, qui n'a pas tout de suite eu recours aux quotas. Une fois qu'ils sont mis en place, donc en 98, comment sont-ils calculés? Comment sont-ils ensuite répartis d'un État à l'autre?
Alors au départ, en 98, la Commission donc, va s'appuyer sur son comité scientifique, qui fait une recommandation chaque année pour expliquer le taux admissible de capture pour que le stock puisse continuer à se rétablir, en fait. Sauf que jusqu'en 2009, l'organe politique de la Commission n'a jamais respecté la recommandation du comité scientifique. Et avec une année assez emblématique, qui est l'année 2007, où le comité, on est en plein effondrement du stock, et le comité scientifique va recommander de fixer un quota à 15 000 tonnes pour l'ensemble des États. Or, l'organe politique va fixer un quota à 29 500 tonnes, donc on est déjà
presque
le double. Et derrière, on estime que les prises réelles, donc notamment les prises illicites, étaient autour de 61 000 tonnes. Donc on est vraiment très très loin de ce que recommandaient les scientifiques. Une fois que ce quota il est fixé, donc là en l'occurrence c'était 29 500 tonnes, il est réparti entre les États selon ce qu'on appelle une clé de répartition. Donc c'est en fonction de plusieurs critères, notamment les prises historiques des États. On se réfère en fait à l'année 93-94, aux années 93-94, c'est les premières données qu'on a.
Ce qui posera problème, on en parlera tout à l'heure, mais ce qui pose des problèmes puisque certains pêcheurs ne travaillaient pas à ce moment-là ou n'avaient pas encore mis en place leur pêcherie et aujourd'hui se retrouvent lésés, disent-ils, par rapport aux autres. Et pardon, je vous laisse continuer. Donc ça, c'est un des critères retenus pour l'allocation des quotas. Quels sont les autres critères ?
Alors ensuite, il y a des critères économiques et sociaux de développement de l'État, en fait, et aussi des techniques de pêche. Sauf qu'on se rend compte qu'au moment des négociations, en fait, c'est le critère des prises historiques qui joue le plus. Ce que la Turquie avait largement contesté, elle avait demandé de mettre en place une formule mathématique avec un pourcentage sur chaque critère, ce qui a été refusé bien évidemment par les autres États, qui préfèrent avoir une marge de négociation, ce que fermait complètement la formule mathématique en fait.
Donc, c'est un système qui favorise les États qui étaient déjà de gros pêcheurs dans les années 90, c'est aussi un système, Mathieu Colter, qui favorise les grosses pêcheries, les grosses entreprises de pêche.
Oui, c'est vrai que c'est toute cette question en fait de comment on alloue ce quota et quels sont les critères, et c'est une question qui se pose à l'échelle internationale entre les États et puis après qui se pose aussi à l'échelle nationale, puisque les États et donc on a typiquement nous une allocation au niveau de l'Union européenne donne un quota à la France et ensuite la France est responsable d'allouer le quota au sein de ses différentes pêcheries. Et en fait on retrouve le même débat aux différentes échelles, c'est-à-dire quels critères on utilise, qui a le droit de pêcher, dans quelle quantité, avec donc en effet au niveau de l'ICAT, la capture historique qui est assez importante, avec d'autres critères. L'ICAT, c'est quand même à noter au sein des ORGP, au sein de ces organisations régionales de gestion des pêches, est une de ces ORGP qui a le plus de, qui prend en compte le plus de critères, pas seulement justement de capture historique. Alors après, justement, comme le disait Madame Gambardella, c'est la question après de l'implémentation, la mise en œuvre, où ça pose toujours question et où en effet il y a toujours des gros débats en cours. Et au niveau français, de la même manière, c'est aussi majoritairement la capture historique qui compte. Et en effet, quand on prend pour période de référence les années 2000-2010, surtout 2010, c'était les thoniers seineurs et donc plutôt les grandes flottilles qui pêchaient la majorité, qui ont aujourd'hui aussi toujours la grande partie de l'allocation du quota.
Donc ces grands thoniers seineurs, ce sont ces grands filets qui encerclent les poissons, vous nous le disiez tout à l'heure, ainsi que les palans grillés, cette grande ligne sur lesquelles il y a de multiples sont a priori favorisés par ces techniques de mise en place de quotas, d'allocation de quotas basées sur le principe d'antériorité des pêches. Par définition, les jeunes pêcheurs n'ont pas d'antériorité et les petits pêcheurs en France disent être lésés par ces mesures.
Ah oui, je suis soulagé. Soulagé parce que la dernière année, j'ai fait la saison, mais avant de partir, je savais pertinemment que j'arriverais pas à payer mes crédits. Vu le peu de quotas et le prix du poisson, je savais très bien qu'une fois les frais levés et le partage fait avec l'équipage, pour payer les crédits, il n'y en avait pas assez. Enfin, je l'ai vendu. C'est du gros souci. C'est beaucoup de soucis.
Extrait d'un documentaire The Last Catch qui date de 2013 déjà, de Marcus Schmidt. Le pêcheur interviewé respecte les quotas, mais il doit vendre son bateau parce que son activité n'est plus rentable. Mathieu Colter, c'est quelque chose que vous entendez également souvent dans les métiers de la pêche, plutôt sur les petites exploitations. Est-ce que ça a un sens dans la pêche au thon de parler de petites et grosses exploitations, parce que même les petites exploitations en général rapportent énormément de poissons?
C'est vrai qu'on a différents modèles. Typiquement, alors en Occitanie, enfin on appelle ça les petits métiers. Donc on a des petits métiers qui ciblent le thon rouge. On a, à travers différents combats qu'il y a eu dans les années 2000-2010, aujourd'hui un quota social de 1,2 tonne. Et quand on regarde ce quota social de 1,2 tonne pour un petit métier, c'est en effet très important dans son chiffre d'affaires. C'est une solidification importante du chiffre d'affaires. Et donc il y a logiquement des demandes d'autres petits métiers Français qui demandent depuis plusieurs années, qui n'ont pas forcément eu de réponse, et donc des grandes questions sur quels sont les critères, comment ça évolue. Et c'est vrai que pour... Là, à la limite, c'est une question qui se pose à l'ensemble des modèles, cette question du renouvellement générationnel, c'est-à-dire comment on va permettre à des jeunes pêcheurs de s'installer, notamment des jeunes pêcheurs de s'installer avec un modèle économique solide, et dans ce modèle économique, le thon rouge peut jouer un rôle important. Et donc ça, c'est vraiment des grandes questions qui se posent, qui vont se poser à l'État, qui se posent aussi aux pêcheurs, aux organisations professionnelles, sur comment on permet à des jeunes pêcheurs de s'installer, sachant qu'on est aujourd'hui dans une situation où on manque de renouvellement générationnel dans la pêche.
Alors voilà pour les questions sociales que posent ces quotas, avec aussi, j'imagine, l'instauration de quotas qui néanmoins fait monter le prix du poisson. Peut-être s'y retrouve-t-il, on parlera sans doute de la valeur du thon rouge aujourd'hui. Mais Sophie Gambardella, pour revenir sur ces quotas, comment sont-ils renégociés? C'est-à-dire que est-ce qu'ils sont toujours, aujourd'hui, en 2024, renégociés tous les ans, avec les problèmes que ça a posé dans les années 2010, d'États qui réussissaient à toujours faire valoir leurs intérêts d'une année sur l'autre?
Alors, depuis, en fait, en 2009, on a un vrai tournant dans la gestion du thon rouge de Méditerranée, parce que la principauté de Monaco a proposé d'inscrire le thon rouge à l'annexe 1 de la convention qu'on appelle CITES, qui est une convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage qui sont menacées d'extinction. Et la proposition de Monaco, c'était, en fait, l'inscription à cette annexe 1, ça voulait dire l'interdiction du commerce international du thon rouge. Donc là, les États membres en fait de l'ICAT ont eu très peur de ne plus pouvoir faire de commerce international du thon rouge. Et donc même si l'inscription n'a pas eu lieu, ça a entraîné une vraie réaction au sein de l'ICAT et on a commencé à faire des plans de rétablissement pluriannuels, c'est-à-dire à fixer des quotas sur plusieurs années, donc pas les renégocier chaque année. Et là, on avait le dernier plan qui s'arrêtait en 2022, donc on avait un peu peur que, vu que le stock se rétablissait, que les États augmentent très fortement les quotas. Effectivement, on a relevé le quota de capture, il est passé en 2022 de 36 000 tonnes à 40 500 et quelques tonnes, mais on l'a gelé jusqu'en 2025. Donc ça veut dire que là, on a un plan de rétablissement sur plusieurs années avec un quota gelé.
Qui va se renégocier donc là, dans l'année prochaine?
Oui.
Donc il y aura un enjeu important l'année prochaine. On va y revenir sur ce savoir déjà qui en décide, c'est-à-dire qui sont aujourd'hui les pays membres de la CICTA ou l'ICAT, c'est la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, je répète à chaque fois pour éviter trop de sigles. Est-ce que ce sont, puisque vous y êtes tout à l'heure Sophie Gambardella, la distinction entre état côtier et état de port, des ports, est-ce que ceux qui participent à cette commission, ce sont les pays qui bordent l'océan Atlantique, ou aussi ceux qui importent et qui consomment le thon de ces eaux?
Alors, le principe dans les organisations régionales de gestion de pêche, c'est que tous les États intéressés, qu'on dit intéressés, peuvent être membres de l'organisation. Donc, on n'a pas uniquement les États côtiers des bassins, on a aussi tous les États qui importent l'espèce, en fait. Ce qui fait qu'on retrouve notamment à l'ICAT, on va retrouver le Japon par exemple, ou des pays d'Asie qui vont pas forcément venir pêcher mais qui importent en fait le thon rouge de Méditerranée.
Mathieu Colter, est-ce qu'à l'inverse, certains États peuvent décider de ne pas en être membres de cette commission internationale alors qu'en toute logique, ils devraient l'être?
Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés pour des États aussi à participer, hein, puisque ça veut dire aussi envoyer des délégations, envoyer des personnes, etc. Donc il peut y avoir des difficultés pour participer. C'est des organisations qui restent ouvertes, donc on peut se rejoindre au fur et à mesure, hein. Typiquement, l'ICAT, le Royaume-Uni a rejoint dernièrement après le Brexit. Donc voilà, ça évolue. Il y a des questions pour les États. Il faut aussi être entre guillemets membre des Nations Unies. Signer, etc., ratifier un certain nombre de traités. Donc voilà, ça ouvre des questions après sur les possibilités. Et puis, il y a être membre et puis après être dans la possibilité de participer, de pleinement participer, ce qui là ouvre aussi des questions en termes d'équité entre les États, de capacité, et donc là aussi des besoins de corriger un peu ces défauts et de permettre à l'ensemble des pays de pouvoir intéresser, de pouvoir participer pleinement. Voilà.
Et est-ce que les scientifiques sont aussi partie prenante de la commission? À chaque fois qu'un quota est défini, ça se base sur des constats, des évaluations de la présence des poissons dans les océans. Qui fournit ces chiffres? Qui les calcule? Et comment?
Ouais, tout à fait. En fait, l'ICAT, c'est, il faut imaginer, donc c'est une organisation internationale. On a un secrétaire exécutif, on a un secrétariat avec une quarantaine de fonctionnaires, différents départements, hein, et donc notamment un département scientifique, un département statistique. Et donc on a des scientifiques, on a un comité scientifique au sein de l'ICAT avec des scientifiques nommés par les différents États qui prennent les données de pêche, font tourner des modèles, fournissent des avis scientifiques ensuite à la commission. Qui ensuite prend des décisions.
Alors, est-ce que toutes ces mesures, Sophie Gambardella, sont prises, sont mises en place pour protéger le thon rouge en tant qu'espèce faisant partie d'un équilibre systémique, un écosystème, comme on dit, ou pour où il s'agit de protéger le thon afin qu'on puisse continuer à en manger? C'est-à-dire, quelles sont aujourd'hui les raisons qui poussent cette commission internationale et les États qui en font partie à contrôler les stocks de thon rouge?
Alors, l'objectif de la commission, elle est créée en 66. Son objet, c'est bien protéger les stocks pour qu'on puisse continuer en fait à prélever sur les stocks, avoir une pêche durable. Toutefois, au fur et à mesure du temps, et notamment avec l'avènement du droit international de l'environnement dans les années 70, on voit se développer une approche plus écosystémique en fait de la gestion des pêches. Et notamment dans ce fameux comité scientifique permanent pour la recherche et les statistiques de l'ICAT, on a créé un sous-comité écosystémique, un sous-comité socio-économique, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer d'autres approches et d'autres disciplines pour avoir une vision plus globale de la pêche et donc des stocks dans leur propre environnement.
Et aujourd'hui, le fait que cette politique reste centrée sur la protection des stocks comme stocks à pêcher dans le futur est donc plus ça qu'une approche vraiment environnementale, écologique. Qu'est-ce que ça implique comment ça se ressent dans les mesures qui sont prises? Qu'est-ce que ça implique comme conséquence aujourd'hui?
Ça implique notamment, on se rend compte que quand on veut mettre en place des aires marines protégées, par exemple, la communication est compliquée entre les organisations régionales de pêche et les autres instances ou organisations qui gèrent ces aires-là. Donc en pratique, on a une fragmentation en fait des questions qui est un obstacle en fait à une gestion un peu intégrée en fait des océans.
Alors, quelles sont les mesures prises, toujours par cette commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, quand les entreprises de pêche ou quand les États ne respectent pas les promesses engagées? Mathieu Colter, est-ce qu'elle peut prendre des sanctions? Comment agit-elle quand ce qu'elle a édicté n'est pas suivi?
Alors oui, il y a des sanctions, hein, puisqu'il y a un comité notamment qui contrôle ce respect des règles, dans typiquement par exemple aussi la résolution qui a été adoptée sur l'allocation des quotas, un des critères pour cette allocation des quotas, c'est aussi le respect des règles, hein, définies par l'ICAT, donc il peut y avoir en effet derrière des sanctions prises, des sanctions alors de un par les contrôles à l'échelle nationale, hein, si typiquement un bateau ne respecte pas le quota ou autre, on peut avoir des sanctions à l'échelle national s'il y a contrôle. Et puis après, voilà, différentes sanctions à l'échelle européenne et puis après à l'échelle de l'ICAT au niveau des États.
Et quand un navire qui a déjà atteint son quota autorisé de thon pêché continue à sortir en mer, il se passe quoi? Parce que ça arrive encore souvent, on parle aujourd'hui, même il y a quelques années, il y avait une enquête d'Europol qui avait fait beaucoup de bruit parce qu'elle révélait qu'il y avait encore des pratiques illégales entre l'Espagne, l'Italie et la France. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a encore des pratiques illégales entre ces trois pays? Qu'est-ce que les contrôles n'arrivent pas aujourd'hui à stopper, à arrêter ou à empêcher? Et comment les professionnels de la pêche peuvent ou pas continuer à pêcher, même quand ils ont atteint leur quota?
Alors normalement, c'est vrai que quand en France, typiquement, quand on atteint 90% du quota, on ferme après, c'est-à-dire qu'on, enfin voilà, on permet encore un peu, mais le quota est fermé, donc on est censé prévenir ces situations et entre guillemets, elles sont censées pas se passer. Aujourd'hui, d'ailleurs, le quota est assez vite rempli. Par exemple, pour les thoniers seniors, c'est en une semaine et demie, le quota est fait après un voyage de pêche aux Baléares. Donc voilà. Donc globalement, le respect des règles, c'est beaucoup améliorée. On a des déclarations électroniques. Les pêcheurs mettent au courant l'administration assez rapidement. Et puis, comme je vous disais, on a des contrôles aussi à bord. Donc voilà, on a eu en effet toujours des pêcheries illégales, avec notamment une phase un peu critique qui était le transfert des cages, le grossissement. L'enquête d'Interpol le montrait. Donc il y a eu de l'action depuis. Alors c'est assez difficile du coup de dire quelle est la part de pêche illégale, sachant que par définition elle est illégale et c'est difficile à quantifier.
Elle est sous les radars.
Mais voilà, entre guillemets, aujourd'hui il y a quand même des mesures et notamment aussi au vu de ce que vous disiez, ces enquêtes qui ont été réalisées, une gestion beaucoup plus stricte. Après, est-ce qu'on enlève 100% de la pêche illégale, c'est toujours une question.
Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas qu'en une semaine certains thoniers partent et déjà rempli leur quota de pêche quand ils partent pendant une semaine et demie? Est-ce que c'est parce que les stocks de poissons se sont renouvelés vraiment et que donc c'est très facile aujourd'hui d'en attraper et il suffit de se pencher? Ou est-ce que c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que la pratique reste assez industrialisée? Comment est-ce que Sophie Gambardella, là-dessus, vous analysez et traduisez cela? C'est-à-dire que les pêches se font de plus en plus vite?
Oui, ben ça c'est la technique, les techniques qui se sont développées et les quotas qui eux de l'autre côté diminuent. En même temps, si je peux revenir sur la pêche illicite, on a eu quand même un développement très très important des techniques au niveau des organisations de pêche pour lutter contre la pêche illicite. On a notamment maintenant des listes en fait de navires qui ont été identifiés comme se livrant à ces techniques et des listes qui sont croisées entre les organisations de pêche, donc qui permet de mieux identifier ces navires-là. Et effectivement, tout plein de sanctions, notamment des sanctions commerciales qui se sont mises en place, donc des interdictions d'importer le thon rouge provenant d'un État qui ne respecterait pas ses obligations. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait que les pêcheurs pêchent en si peu de temps, ça augmente le risque aussi de vouloir derrière y retourner parce que pour se livrer à une pêche illicite.
Donc il y a tout ce à quoi contribuait la Commission internationale pour la conservation des thonidés d'Atlantique, ces mesures que vous avez détaillées, que ce soit les quotas, mais aussi l'interdiction de ces aéronefs qui permettaient aux pêcheurs de repérer les poissons, la taille minimale aussi fixée pour le maillage du filet pour faire en sorte que les plus petits des thons, ceux qui sont encore en âge de se reproduire, ne soient pas pris dans leur filet. Mais il y a aussi les facteurs indépendants du rôle de police des mers qu'a joué la CICTA ou l'ICAT, c'est le rôle des ONG, que ce soit Greenpeace, le WWF, l'association Bloom ou cette campagne de l'ONG Sea Shepherd. Quand vous voyez un thon, pensez à un panda puisqu'il s'agit de sensibiliser à un poisson qui est assez laid mais qui est massacré à 20 000 lieues sous les mers.
Les associations de protection de l'environnement nous ont longtemps montré du doigt comme étant responsables de la surexploitation et je pense que c'est un message négatif pour l'ensemble de notre profession. Nous, on essaye d'avoir un développement durable de la pêcherie et on pense qu'une augmentation progressive et limitée du quota était la meilleure façon d'agir. Et enfin, la troisième raison, c'est que les prix de vente risquent de s'effondrer et pour un pêcheur, autant pêcher peu, vendre mieux que de pêcher beaucoup et vendre moins cher.
Bertrand Wendling, directeur d'une coopérative de pêche de 7 au sujet de l'augmentation des quotas, alors c'était en 2017, lui dit que ce n'est pas dans l'intérêt non plus des pêcheurs de trop augmenter les quotas. Alors est-ce que le thon rouge est sauvé pour les années qui viennent, Mathieu Colter, puisque les quotas doivent être renégociés l'année prochaine? Est-ce qu'on peut se dire qu'il y aura un consensus, une unanimité, voire, pour éviter que ces quotas ne réaugmentent de façon spectaculaire?
Ah, on peut l'espérer. C'est vrai qu'il y a quand même, on est quand même sur une tendance plutôt positive pour ce cas. À travers, vous l'avez rappelé, l'action dans les années 2000 des ONG qui ont mis une pression publique assez forte, qui ont aussi contribué à ces prises de décision et à ce respect des avis scientifiques et à une durabilité retrouvée entre guillemets du stock. Voilà, on peut espérer. C'est vrai qu'il y a aussi des certifications environnementales qui ont été développées, par exemple par les pêcheurs, différentes certifications pour justement montrer cette durabilité retrouvée, en faire aussi un argument marketing. Donc c'est aussi dans leur avantage de continuer à avoir ces labellisations qui sont sous-tendues par un respect des avis scientifiques et une gestion durable. Donc voilà, on peut l'espérer.
Puisqu'il faudra renégocier l'année prochaine, Sophie Gambardella, quels États, est-ce que par avance on sait déjà quels États diront c'est bon, le stock de thon rouge est rétabli, on peut réaugmenter les quotas et c'est dans l'intérêt de tous?
Non, je pense pas qu'on puisse le dire en avance, surtout qu'ils vont a priori pas le dire de cette manière-là, puisque sous l'influence effectivement des ONG et le fait que maintenant, en fait, le thon rouge soit le panda des mers, on est tous nos regards tournés vers le thon rouge de Méditerranée, il y a peu de chances qu'il y ait ce discours-là, en tout cas ouvertement. Mais ça risque de réaugmenter un tout petit peu, pas dans des proportions énormes, mais c'est déjà très haut en fait, hein, 40 570 tonnes, c'est très important comme quota quand on sait qu'on était plutôt autour des 12 000 tonnes avant que le stock s'effondre.
Avec des États dont vous disiez tout à l'heure qu'ils s'intéressent aujourd'hui davantage qu'avant au thon rouge, que ce soit la Turquie, les pays du Maghreb, est-ce que ces pays aussi pèsent dans les négociations, les discussions, de quelle manière aujourd'hui ?
Ils vont surtout peser pour la répartition. Une meilleure répartition et qu'on revoie les critères. De toute façon, ça revient à chaque négociation, revoir la clé de répartition, mieux équilibrer les critères pour la répartition du TAC. Je pense qu'actuellement, les négociations, elles sont beaucoup à ce niveau-là.
Et les Japonais, alors, même si ce ne sont pas les seuls, loin de là, à raffoler des sushis, et que sans doute eux aussi ont pris des mesures, enfin je vous pose la question, ont-ils pris des mesures d'ailleurs pour réduire cette consommation, mais est-ce que les Japonais mangent toujours autant de temps de thon rouge de Méditerranée ou d'Atlantique qu'avant ?
Oui, il y a toujours une forte consommation, et le risque aussi, c'est que ce qu'on réduit au niveau de la Méditerranée se reporte sur d'autres espèces de thon rouge, et notamment ce thon rouge du Pacifique qui est passé de vulnérable à quasi menacé. On a toujours ce risque-là aussi de report d'un stock vers l'autre.
Le thon rouge du Pacifique dont il sera question dans un instant pour notre focus, après ce titre de Supertramp, Hide in Your Shell. Alors il est question de coquillage, mais la comparaison s'arrête là. Juste envie d'écouter Supertramp, c'est la seule raison pour laquelle vous l'entendez maintenant ce matin. Hide in Your Shell, 1974, extrait de l'album Crime of the Century. En l'occurrence, pour le thon rouge, le crime a été rattrapé et l'extinction prévue n'a pas eu lieu. Si les thons rouges font l'objet d'une régulation très stricte, certaines espèces de thon sont encore loin de sortir la tête de l'eau. Le thon tropical est encore victime de surpêche dans l'océan Indien.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Le thon tropical dont fait partie l'albacore qu'on trouve dans nos conserves sous la forme de thon au naturel. Il vit essentiellement près des côtes ouest du Pacifique, également sur les côtes est, près de l'Équateur, la Colombie, le Mexique, les États-Unis et dans l'océan Indien. Et lui aussi fait l'objet de quotas, ces pêcheurs de contrôle. Mais pour l'instant, rien n'y fait. Bonjour Patrice Guillotreau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, spécialiste des pêcheries thonnières de l'océan Indien. Vous êtes basé à Sète. Le thon tropical est pêché selon une pratique particulière. Qu'est-ce que c'est que la pêche sous DCP? Ça veut dire quoi?
Alors, les DCP, ce sont des dispositifs de concentration de poissons, c'est-à-dire des objets flottants qu'on va mettre à l'eau à dessein, en fait, et sous lesquels le thon va s'agréger. Et dès lors que le thon est immobile sous ces objets flottants, en fait, il devient plus facilement capturable à la scène.
Donc on construit, les pêcheurs construisent des sortes de radeaux artificiels sous lesquels ils accrochent des lianes ou des filets tombants pour permettre ces agrégations de poissons. Ils les laissent combien de jours pour permettre aux poissons de repérer ces engins et de s'y accrocher?
Alors, ils peuvent les laisser des plusieurs dizaines de jours. Hein, on estime quand le poisson peut s'agréger en moyenne au bout de 40 jours, parfois moins. Et puis donc, on va suivre aussi, c'est ça qui est important, ces DCP, ces dispositifs de concentration de poissons, avec des balises satellites, des bouées, en fait, qui vont émettre. Et donc, on va connaître la position une fois en mer, quoi. C'est une première particularité.
Et elles restent bien sagement à leur place, ces balises. Elles se rient des vagues et des tempêtes. Les pêcheurs peuvent les laisser là sans s'inquiéter de savoir ce qu'elles vont devenir?
Non, ce sont des balises, ce sont des bouées dérivantes, en fait. Et les radeaux sont dérivants. Donc, il y a deux types de DCP. Des DCP dérivants, ceux que vont semer à l'eau, donc les seineurs. Et puis, des DCP ancrés, comme le font les Maldiviens, par exemple. Et donc, là, les DCP sont immobiles. Et les canneurs, la pêche à la canne, donc, vont aller sur ces DCP qui sont proches des côtes. Donc, c'est deux techniques assez différentes, en fait.
Est-ce qu'il arrive que certaines se perdent en mer? Et en fait, continue à pêcher pour rien, parce que puisqu'il y a toujours ces lianes auxquelles les poissons peuvent se cramponner, mais elles ne servent plus aux pêcheurs.
Oui, alors le liane, c'est un moindre problème, parce qu'auparavant, en fait, c'était des vieux filets et dans lesquels les espèces vulnérables pouvaient se mailler, par exemple, les tortues marines ou les requins. Et donc là, on parlait de pêche fantôme, parce que ces engins continuaient d'être pêchants, même une fois abandonnés par les pêcheurs. Et la proportion de radeaux abandonnés par les pêcheurs est assez importante, hein, c'est à peu près une sur deux dans l'océan Indien. Et donc ça veut dire que non seulement on va pouvoir avoir ces pêches fantômes, mais aussi des échouages par exemple sur des récifs coralliens et donc une pollution en mer, ne serait-ce que par l'électronique aussi dans les bouées.
Une sur deux de ces bouées ou de ces balises est perdue. Alors ce sont des systèmes qui sont suffisamment sophistiqués ou pas pour épargner les plus jeunes thons, ceux qui ne se sont pas encore reproduits, Patrice Guillotreau?
Alors malheureusement non, puisque ces DCP sous lesquels vont s'agréger ces DCP, ce sont des espèces plutôt petites qu'on va trouver, c'est-à-dire du listao, qui est une espèce à vie courte, et donc ça c'est pas trop un problème parce que ce stock est très résilient, peu vulnérable, mais on va aussi trouver des stades juvéniles en fait, d'espèces qui ont la suite de leur cycle de vie en haute mer, loin des DCP et sous la forme de bancs libres. Donc ils vont se détacher de ces objets au cours de leur cycle de vie. Ça veut dire qu'on va les pêcher de manière, des thons immatures, on a plus de risques de pêcher des thons immatures sous les DCP.
Et puis ces DCP ramassent tout ce qui se passe, donc par définition il y a aussi des espèces dont les pêcheurs ne pourront rien faire par la suite mais qui se coincent quand même dans ces instruments. Alors la pêche du thon tropical n'est pas réglementée par la même commission que celle dont on a parlé pour le thon rouge. Cette fois c'est la commission des thons de l'océan Indien qui opère. Quelles mesures de réglementation a-t-elle choisi? En quoi diffère-t-elle de la commission qui agit cette fois pour les thons de la Méditerranée et de l'Atlantique?
Alors l'ICAT, une petite rectification, l'ICAT qui régit les thons tempérés, donc comme le thon rouge par exemple, ou le thon germont, va aussi suivre les thons tropicaux. L'albacore et le listao font l'objet aussi d'une réglementation par l'ICAT. Mais chaque océan, en fait, ou chaque partie d'océan a ses propres commissions. Effectivement, dans l'océan Indien, c'est la commission thonnière de l'océan Indien qui réglemente aussi ces pêches. Donc on va avoir des instruments assez voisins. Par exemple, pour les espèces les plus vulnérables à la pêche dans l'océan Indien, comme l'albacore par exemple, vont être mis en place des totaux admissibles de capture, donc des limites de capture, avec un partage sous forme de quotas, comme Sophie Gambardella l'a expliqué tout à l'heure pour le thon rouge dans l'Atlantique.
Alors pourquoi ça ne marche pas ? C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui que autant le thon rouge a réapparu en Méditerranée dans l'Atlantique, autant le thon tropical est en danger. Pourquoi ?
Alors pourquoi ? Parce que en fait aussi il y a beaucoup d'intérêts antagonistes. Donc un petit peu comme dans le cas du thon rouge, on a une domination assez forte de la scène, et puis ensuite des petits métiers aussi dont a parlé Mathieu Colter. C'est un petit peu pareil dans l'océan Indien, mais voilà, une pêche à la Seine. Dans l'océan Indien, c'est un petit peu pareil, mais avec une échelle beaucoup plus vaste. C'est-à-dire que vous avez des tas de flottilles qui ont été développées aussi par les États côtiers, des flottilles donc qualifiées d'artisanales, mais qui peuvent pêcher très très fortement cette espèce. Et souvent, les pays aussi peuvent objecter aux résolutions qui sont prises par les commissions thonnières. Dès lors que vous objectez, vous n'êtes plus soumis à la contrainte de la résolution en question. Et donc, dans le cas du total admissible de capture pour l'albacore, par exemple, vous avez une limite d'à peu près 300 000 tonnes pour les pays qui ont accepté cette mesure, mais vous avez des pêches qui atteignent 430 000 tonnes, donc qui dépassent de loin, en fait, le total admissible de capture.
Les États ne s'entendent pas toujours, ceux qui font partie de cette commission des thons de l'océan Indien ne s'entendent pas toujours sur les méthodes à déployer. Les pays du Sud, notamment, avaient proposé en février 2023, donc il y a un peu plus d'un an, des moratoires sur cette technique de DCP pour la pêche. D'autres pays s'y étaient opposés, notamment l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne, qui ne fait pas partie des États du Pacifique, a le même poids au sein de cette commission que des pays du Sud qui, eux, bordent l'océan Pacifique ?
Alors, elle a un poids important dans la mesure où elle contribue beaucoup aussi par les scientifiques présents en fait dans les commissions thonnières aux évaluations du stock. Mais depuis peu, effectivement, tous les États une grande partie des États de l'océan Indien, des petits États insulaires ou des petits États côtiers, en fait, se sont ligués, sont coalisés pour former ce qu'on appelle le G16, un groupement qui va s'opposer très fortement justement à une pêche plutôt industrielle des flottilles du Nord, des flottilles distantes, comme celle de l'Union européenne. Donc on a des tensions très fortes qui s'avivent, mais les lignes de fracture, en fait, ne sont pas aussi simples, c'est-à-dire n'opposent pas seulement des petits pays du Sud à des grandes nations du Nord qui viennent pêcher dans leurs eaux, parce que vous avez des intérêts aussi pour la pêche à la Seine parmi ces États du Sud. Et donc les coalitions et les alliances vont suivre des géométries un petit peu variables selon les intérêts en cours.
Et comment se font les contrôles sur des distances océaniques comme celles qui existent sur le Pacifique, l'océan Indien ? Est-ce que les contrôles sont aussi simples, entre guillemets, parce qu'ils ne le sont pas toujours, mais que ceux dont on parlait tout à l'heure pour le thon rouge dans l'Atlantique et en Méditerranée ?
Oui, ils ne sont pas aussi simples. On n'a pas la même couverture, par exemple, d'observateurs à bord. Autant pour des flottilles moins importantes, c'est possible de le faire, mais ça exige aussi un effort assez important. Mais pour des flottilles aussi importantes que celles de l'océan Indien avec des couvertures océaniques, des océaniques, c'est moins simple. Hein. Donc on estime que le taux de couverture, à peu près, par les observateurs à bord, sur les marées qui sont effectuées, n'est de l'ordre que de 10%. Donc, ce qui ne suffit pas. Or, il y a d'autres moyens de contrôle, mais il peut y avoir aussi beaucoup plus d'opportunités pour des pêcheries illégales, pour du transbordement en mer, par exemple, des choses qui échappent un peu à l'observation.
Patrice Guillotreau, pour conclure, les pêcheries qui se présentent comme plus durables, la pêche à la canne, tout simplement, qui existe pour le thon, qui se pratique par exemple par les pêcheries iraniennes, indonésiennes ou des Maldives, est-ce que c'est vers ce modèle-là qu'il faudrait regarder ?
Pas seulement, moi je pense, parce que il y a un consensus scientifique sur l'excès, par exemple, des DCP dont on a parlé. Ça, c'est certain qu'il faut réglementer, il faut régir. Maintenant, c'est peut-être pas suffisant pour nourrir des populations. On a un nombre croissant de pays qui vont consommer aussi des conserves de thon et la pêche à la Seine reste efficace pour alimenter aussi toutes ces filières de commercialisation de produits à bon marché. Donc il faut voir tous les versants en fait de ce problème, veiller à ce que les pays du Sud puissent asseoir leur développement sur ces pêcheries côtières artisanales qui valorisent très très bien la ressource, mais ne pas oublier aussi d'autres types de filières de commercialisation qui alimente un marché mondial.
Merci beaucoup Patrice Guillotreau d'avoir été avec nous, chercheur à l'Institut de Recherche pour le Développement, spécialiste des pêcheries thonnières de l'océan Indien. Merci beaucoup Mathieu Colter, il se trouve que vous avez travaillé avec des collègues australiens sur ces questions. C'est passionnant de voir combien des fractures géopolitiques, qui ne sont pas aussi simples comme disait Patrice Guillotreau, que de simplement dire pays du Nord versus pays du Sud ou pays industrialisé contre pays en voie de développement, mais comment vous les avez ressentis dans les discussions que vous avez avec vos collègues australiens pour l'océan Indien.
C'est vrai que c'est une grande question. En effet, on parle beaucoup de durabilité environnementale dans la pêche, donc justement fixer ses quotas, atteindre cette durabilité environnementale, mais il y a aussi des questions de durabilité sociale et de durabilité économique que nous posent un certain nombre de pays du Sud, que nous posent un certain nombre de petits pêcheurs sur la possibilité de pêcher et de vivre de cette activité. Et c'est vrai qu'il y a un jeu là-dessus qui peut être fait au niveau de l'océan Indien. La position de l'Union européenne est critiqué par un certain nombre de pays, petits états-nations qui se développent. On a aussi, par exemple, la position un peu spécifique de la Réunion et de Mayotte, où les représentants locaux de la pêche se plaignent aussi de la défense par l'Union européenne qui est faite au niveau de la CTOI. C'est-à-dire qu'ils pensent que l'Union européenne défend beaucoup plus les intérêts des grandes flottilles que leur intérêt à eux de petits pêcheurs côtiers artisans de l'océan Indien. Donc voilà, il y a un grand enjeu à être à même de mettre ça en musique, de mieux prendre en compte la durabilité sociale et économique, l'équité dans l'allocation de ces quotas. Donc c'est le cas dans l'océan Indien, c'est le cas au niveau international, au niveau de ces négociations entre les pays, et puis c'est le cas après au niveau national entre les pêcheurs.
Ils ont des recours en justice d'ailleurs possibles. Les pêcheurs, il est arrivé qu'ils y recourent d'ailleurs.
Ouais, tout à fait. En France, on a eu, par exemple, il y a quelques années, un recours d'un certain nombre de petits pêcheurs, associations de petits pêcheurs contre l'État sur les critères d'allocation du thon rouge, qu'ils avaient gagné ce recours. L'État s'est porté, a fait appel, et je ne sais pas où ça en est en ce moment. Je pense que c'est toujours en jugement. Mais entre guillemets, oui, il y a cette question de qui a le droit de pêcher. Et c'est vrai qu'au sein de l'Union européenne, dans la politique commune des pêches, on a un article 17 qui nous dit qu'il faut utiliser des critères non seulement économiques, comme l'historique des captures, mais aussi sociaux, environnementaux, qui sont objectifs, transparents. Et là-dessus, c'est là où il y a encore un travail, ou en tout cas un certain nombre de pays, un certain nombre de pêcheurs nous rappellent qu'il y a un travail encore à faire là-dessus.
Merci beaucoup Mathieu Colter d'avoir été avec nous dans Culture Monde, ingénieur de recherche en halieutique à l'Agro-Toulouse, chercheur associé à l'IDRI, Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Vous étiez en duplex depuis France Bleu Occitanie avec Wissam El-Kayer, que je salue et remercie. Merci beaucoup Sophie Gambardella, chargée de recherche CNRS en droit, rattachée à l'unité mixte de recherche droit international comparé et européen d'Aix-Marseille Université. Tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse internationale. Présenté aujourd'hui par François Chagnot. François Chagnot, les Philippines montrent les muscles aujourd'hui face à Pékin en mer de Chine.
Oui, c'est en lisant la une du quotidien philippin, The Manila Times, qu'on saisit à quel point le ton monte entre les deux pays. Je vous redonne le contexte. Cela fait des années que Pékin et Manille se disputent le contrôle de l'archipel des Spratleys. Alors à première vue, il s'agit de quelques confettis perdus en mer de Chine méridionale, quelque part entre le Vietnam et les Philippines. Mais il faut bien comprendre que ces minuscules îlots sont éminemment stratégiques, car celui qui les contrôle contrôle un tiers du commerce maritime mondial. Pas étonnant donc que Pékin et Manille cherchent à s'attribuer les Spratleys en construisant des bases militaires. Bon, jusque-là, rien de nouveau. Mais la semaine dernière, les tensions ont passé un cap. Des gardes-côtes chinois ont utilisé des canons à eau pour empêcher l'armée philippine de ravitailler ses soldats positionnés dans cet archipel ô combien stratégique. Au moins 3 membres de la marine ont été blessés. Ce que vous entendez derrière moi, c'est la piste sonore d'une vidéo diffusée sur le média en ligne Rappleur qui témoigne de la violence de cet accrochage. Alors, la réponse de Mani ne s'est pas fait attendre. Sans désigner explicitement la Chine, le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a déclaré, je cite, que les Philippins ne se coucheront pas face à la menace. Le chef de l'exécutif a donc pris plusieurs mesures de rétorsion. Depuis hier, l'ensemble des forces armées, des services de renseignement et même l'agence spatiale philippine font partie d'un conseil de défense maritime. Cette nouvelle institution renforcée est censée répondre aux attaques, je cite, « dangereuses, illégales et agressives ». Alors, cette posture guerrière ne fait pas du tout l'unanimité dans le pays. L'éditorialiste du Manila Times accuse le président Marcos de conduire les Philippines au bord d'une guerre calamiteuse avec la Chine. En cas de conflit, il restera dans l'histoire comme le premier président d'un pays faible à entrer en guerre contre une superpuissance nucléaire, tacle encore le journaliste. Et tout ça pour prouver sa souveraineté sur un banc de sable dont les Philippins n'ont jamais entendu parler. Alors Mani n'est pas exactement seule dans cette affaire. Elle bénéficie de la protection des États-Unis depuis 1951. Mais tout traité peut être rompu lorsqu'il va contre les intérêts d'un pays, rappelle l'éditorialiste du Manila Times. Et entre défendre les Philippines et déclencher une guerre économique, voire nucléaire avec la Chine, les États-Unis ont déjà fait leur choix, conclut-il.
François Chagnot, pour la suite de votre revue de presse internationale, une série de manifestations en Inde un peu plus de 2 semaines avant les élections législatives.
Des dizaines de milliers d'Indiens ont crié leur colère dans les rues de New Delhi hier après l'arrestation d'un des principaux opposants au Premier ministre Narendra Modi. Leur héros arrêté la semaine dernière s'appelle Arvind Kejriwal. C'est le leader de la coalition d'opposition India et il est accusé d'avoir reçu des pots de vin en échange de l'octroi de licences de distribution d'alcool. Alors c'est évidemment une manœuvre politique, dénonce la dirigeante du parti d'opposition AAP, Atishi Marlena Singh, au micro d'Al Jazeera. Si juste avant les élections, les dirigeants de l'opposition sont arrêtés, si juste avant les élections, les comptes bancaires des principaux partis d'opposition sont gelés et si juste avant les élections, les bureaux des partis d'opposition sont mis sous scellés, comment quelqu'un pourra-t-il se présenter aux élections face à Narendra Modi ? Toute autre opposition a été éliminée, c'est exactement ce qui se passe en Inde. Et en une du quotidien The Indian Express, d'autres membres des partis de la coalition d'opposition accusent Narendra Modi d'utiliser les forces de l'ordre pour intimider ses opposants. Arvind Kejriwal est loin d'être le premier membre de son parti à finir derrière les barreaux pour des accusations de corruption ou de fraude fiscale. Et pour la première fois, les leaders de l'opposition demandent d'une seule voix à la commission électorale de veiller à ce que les élections restent équitables. Près d'un milliard d'Indiens voteront à partir du 19 avril pour élire leur nouveau gouvernement. C'est le plus grand scrutin au monde. La réélection de Narendra Modi pour un 3e mandat est quasiment acquise, notamment grâce à sa politique nationaliste.
Et pour conclure, aux États-Unis, les données confidentielles de dizaines de millions de clients d'un opérateur de télécom se sont retrouvées dans la nature.
C'est le média en ligne TechCrunch qui révèle ce week-end l'ampleur du scandale. Les données personnelles de 73 millions d'actuels et d'anciens clients de l'opérateur de télécom AT&T ont fuité et se sont retrouvées vendues au plus offrant sur le dark web. Alors dans cette fuite, on trouve des noms, des adresses, des numéros de téléphone, des dates de naissance, mais plus grave encore, des numéros de sécurité sociale ainsi que des mots de passe. Le géant des télécoms n'a pas encore identifié l'origine de cette fuite et dit n'avoir détecté aucune trace de piratage pour le moment. C'est loin d'être la première fois que les clients d'AT&T subissent une déconvenue pareille. La dernière fuite de données remonte à mars 2023, mais seulement 9 millions de clients avaient alors été touchés. Ces vols de données personnelles chez les opérateurs de télécom sont particulièrement lucratifs pour les hackers et particulièrement coûteux pour les entreprises. En 2022, l'opérateur T-Mobile avait dû débourser 350 millions de dollars pour dédommager 50 millions de ses clients après une fuite de données similaire.
Merci François Chagnot. Dans un instant, les midis de culture.